Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi-du-bas podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Donc bonjour Alexandra.
Bonjour Cassandra.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
Avec plaisir.
Je suis hyper contente que tu sois là pendant les grèves. C'était pas simple.
C'était sportif, mais on l'a fait.
Ouais. Bah, je commence toujours mes échanges de la même façon. Je demande à mon invité de se présenter. Donc est-ce que tu peux te présenter ton parcours jusqu'ici, ce que tu fais, ce que tu as fait?
Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 33 ans. Je suis diplômée d'une école de commerce et on va dire que j'ai un parcours assez classique. En début de carrière au moins, où du coup j'ai fait une école de commerce. Après, j'ai fait 5 ans en marketing dans un grand groupe. Et au bout de 5 ans, j'en ai eu assez. Et je suis partie en congé sabbatique. 6 mois à travers l'Afrique de l'Ouest, où à la fois j'ai voyagé et à la fois j'ai fait des missions dans des associations. Donc, qui a été un peu un déclic d'un changement de vie, ou en tout cas d'une impossibilité de revenir dans la vie d'avant. Donc, je suis revenue en France, j'ai fait plusieurs missions en freelance. Et puis, un an après le retour, j'ai fondé Kera, qui est une marque qui raconte le monde au travers de ses artisans. Et avec un premier pays qui était le Burkina Faso, qui est le pays, un des pays dans lequel je suis allée pendant mon congé sabbatique.
Et du coup, qu'est-ce qui... tu disais que tu avais envie de changer quand ouais. T'es partie, quand t'as pris tes 6 mois de sabbatique, quoi, une petite année sabbatique. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, t'a donné envie de changer?
Je pense que c'est une accumulation de facteurs, en fait. Il y a eu un facteur psychologique, on va dire, c'était d'un point de vue timing, où en fait c'est quand j'ai eu 30 ans, et c'est pas tant les 30 ans, mais c'est que j'étais rentrée dans ma boîte la veille de mes 25 ans. Donc c'était de réaliser que 5 ans s'étaient passés, j'avais pas vu passer le temps, j'avais pas forcément, je m'étais un peu éloignée de qui j'étais et de qui j'avais envie de faire. Donc ça a vraiment été le déclencheur de choses plus sous-jacentes, de, au final, un job dans lequel j'étais plus vraiment alignée, où je me projetais plus, où on me proposait des nouveaux postes et des super postes que j'aurais accepté avant et c'était plus le cas. Malheureusement, la maladie aussi un peu moderne, de proche du burn-out, un management dans lequel je me retrouvais pas et donc du coup, je pense que ça a été aussi un espèce d'instinct de survie de demander 6 mois de congé sabbatique pour me retrouver et je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé voyager. Et j'avais très peu voyagé au cours des 5 dernières années, justement quand j'avais bossé. Donc je me suis dit, mais en fait, j'ai toujours rêvé de faire ça, de partir sec sur le dos, donc go. Donc ça a été une demande qui n'a pas été hyper réfléchie.
Okay.
Je l'ai plutôt réfléchi après. Ça, c'est un peu mon caractère aussi. On me proposait des postes, on me faisait bilan de l'année, machin. Mais en fait, je ne suis pas sûre d'accepter parce que j'ai un projet. J'ai dit que j'avais un projet de 6 mois de congé sabbatique qui, au final, je n'avais pas réfléchi sur le coup. Et voilà, c'était lancé. Quoi.
Et en fait, ouais, à la base, tu avais juste envie de... Enfin, qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Tu t'es dit, bon, bah, je fais une pause de 6 mois, je vais voyager et je reviens. Pourquoi tu as demandé ces 6 mois et pourquoi, par exemple, tu n'as pas quitté la boîte tout simplement? Ou qu'est-ce qui a fait que tu as pris ces 6 mois et pas plus ou...
Alors, revenir... Il y avait 95% de chance, et je le savais, que je ne revienne pas. Les 6 mois de congé sabbatique, c'était avant tout pour avoir une pause dans une carrière qui avait été hyper demanding, comme on dit en anglais, donc hyper prenante. Et de me dire, bah, en fait, c'est quand même un risque qui est maîtrisé. Parce qu'à la fin de ton congé sabbatique, si jamais ça ne le fait pas, je peux retourner dans mon boulot. Et voilà, donc je savais très bien qu'il y avait 95% de chances que je ne revienne pas. Mais voilà.
Ok, et c'était important pour toi d'avoir un peu cette issue de secours, de pouvoir revenir au cas où tu voulais après, quoi?
Ouais, je pense que c'est important. Et c'est important, enfin, c'est peut-être aussi un peu mon caractère de me dire je suis un caractère très impulsif dans mes choix, donc je fais et je réfléchis derrière. Mais quelque part, de toujours avoir une espèce de filet de sécurité, donc pas tout lâcher d'un coup et de lâcher petit à petit. C'était une façon de me dire, bah, en fait, c'est un risque qui est maîtrisé. Je pars 6 mois, j'ai le budget pour partir 6 mois. Et au pire du pire, Je reviendrai le temps qu'il faudra et je repartirai. Mais...
Ouais, au moins, ça ne te stresse pas pendant tes 6 mois à te demander voilà. Qu'est-ce que je vais faire après. Ouais. Finalement, en fait, ça ne me plaît pas tant que ça de voyager. Enfin, on ne sait pas en fait, ce qui aurait pu arriver à ce moment-là.
Exactement,
quoi.
Donc, en fait, j'étais très bien. Enfin, j'ai envie de retourner bosser dans la boîte.
Ouais, parce que des fois, c'est en prenant un peu de recul qu'on se rend compte qu'on était bien là où on est. Et du coup, pendant ces 6 mois, tu as fait quoi?
Alors, pendant ces 6 mois, quand je suis partie, en fait, j'avais un aller simple pour le Burkina. Et je ne savais pas où j'allais derrière. Et pourquoi le Burkina? Ça a été un peu le hasard. J'avais envie de voyager, je voyageais seule. Je voulais pas être touriste dans le pays et je voulais commencer à tester des nouvelles choses pour une première reconversion, on va dire. Et je me suis dit, je vais faire des missions dans des assos. J'étais jamais allée sur le continent africain, à part en Afrique du Nord. Je me suis dit, j'ai envie d'aller de découvrir le continent. Une copine de copine avait fait une mission dans une asso. Donc voilà, c'était parti. Donc j'ai fait 2 mois dans une association burkinabé à Ouagadougou. Après, je suis partie un petit mois en road trip voyager. J'avais une copine en fait qui habitait en Côte d'Ivoire. Donc je suis allée la rejoindre pour Noël. Et je me suis dit, en fait, tant qu'à faire, je vais voyager. Je vais y aller en bus et je vais voyager. Je vais passer par les pays. Donc j'ai fait le Togo et le Ghana. Et après, j'ai passé quasiment 3 mois à Dakar au sein de la branche ouest-africaine de Make Sense, qui fait de l'entrepreneuriat social. Donc ça, c'est sur ce que j'ai fait, on va dire, en termes de mission. Après, ça a aussi été un vrai moment de... Je me retrouve, en fait, de passer beaucoup de temps à me retrouver, à réfléchir à ce dont j'avais envie, de ne pas me mettre aucune pression de projection ou de quoi qu'il se passe, de me dire je vis le moment présent, c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui et on verra plus tard. Quoi. Donc ça a été un vrai moment et je pense que c'est des moments dont tu as besoin régulièrement dans ta vie et encore après quand tu es hyper aligné avec ce que tu fais et qu'on a tendance à pas assez faire, je pense. Mais de reconnexion à soi et de comment tu te retrouves. Tes envies, etc. Comment, et moi, c'était aussi le voyage, c'était découverte contre plein de personnes. Donc, c'est vrai que quand j'y étais, j'en ai profité pour beaucoup voyager dans les pays où j'étais. Donc, j'étais basée à chaque fois dans les capitales, mais à faire des week-ends par-ci, par-là, de partout. Donc voilà.
Ouais, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu étais loin de tout, tu étais toute seule. Bon, même si tu disais que tu étais dans des assos, tu as rejoint une amie, etc. Mais tu étais toute seule, loin de tout, loin de la pression européenne ou parisienne, ce que tu avais avant. Plus dans ton train-train quotidien, donc c'est là que en fait tu arrives à prendre un peu de recul sur ta vie, ton emploi, etc., et peut-être prendre les bonnes décisions pour la suite, quoi. Donc, ça t'a aidé sur ton choix de finalement de quitter ta boîte.
Ouais, ça m'a aidé dans effectivement la prise de recul sur ce dont je n'avais plus envie. Au départ, ça m'a, maintenant avec du recul, ça m'a beaucoup aidé sur ce dont j'avais envie, ce dont j'ai envie. Mais c'est beaucoup plus long comme cheminement et pour comprendre ce dont tu as envie vraiment. Mais en tout cas, ça m'a fait comprendre à l'issue de ces 6 mois que, la pression telle que je la vivais pour des actionnaires, de travailler comme ça, sans vraiment de sens, ça, j'en voulais plus. Enfin, je me souviens à la fin dire à mes équipes, juste avant de partir, ça va, on n'opère pas à cœur ouvert si c'est pas fait pour... pour ce soir, c'est pas bien grave. Et en fait, c'est typiquement l'ambiance de ce genre de boîte de tout est urgent, quoi. Alors que bon, si c'est fait dans 3 jours, c'est fait dans 3 jours. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça m'a fait prendre conscience que je voulais travailler pour moi, en fait. Je savais pas trop sous quelle forme, mais cette liberté était trop précieuse. Cette liberté d'action, de penser, de se dire, en fait, j'ai envie de travailler pour moi. Et je savais pas trop si c'était du freelance, si c'était lancer ma boîte. Si c'était les deux, mais en tout cas, c'est ça que ça a fait ressortir. Et donc, avant même de rentrer, on en a discuté avec mon ancien employeur et d'un commun accord, du coup, on s'est dit que
t'allais pas
ça
ne
servait à rien que je revienne.
Ouais, non, c'est sûr que quand on touche ou on goûte à la liberté, je ne sais pas trop comment on dit, c'est hyper compliqué de revenir en arrière, quoi, et de retourner dans un emploi un peu plus traditionnel ou en tout cas être en CDI avec des actionnaires, etc. Et je retrouve souvent ça, en fait, chez mes invités, c'est que... j'ai l'impression qu'on en a marre de travailler pour des gens que potentiellement on ne connaît pas. Enfin voilà, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait même pas quelles sont leurs valeurs, etc. Et nous, en fait, on est un peu en bas de l'échelle, même si on a des postes importants. Hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Et qu'on en a marre et qu'on préfère bosser pour nous et être libre. Même si l'entrepreneuriat ou le freelance ou être indépendante, ça demande aussi beaucoup de structure et ce n'est pas que de la liberté et ce n'est pas le rêve. Mais j'ai l'impression qu'on a de moins en moins envie de bosser pour les autres, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est un peu ce qu'on disait avant, juste avant de l'enregistrement. Je pense qu'il y a, alors je sais pas si c'est une crise de notre génération ou en tout cas une vraie tendance. Enfin, après, ça, c'est aussi mon interprétation, mais je pense que quand nos parents, il fallait faire carrière dans des grandes entreprises, c'était ça le symbole de réussite. Je pense que notre génération, ou en tout cas une bonne partie des gens qui nous entourent, on n'a plus envie de ça, de se dire que notre vie se résume qu'à notre carrière. Et qu'en fait, c'est deux entités complètement différentes. Donc c'est, comment est-ce qu'on peut avoir la liberté de prendre du plaisir et d'avoir une vie épanouie hors du boulot. Et quelque part, et c'est là où c'est marrant parce que ça pourrait être antagonisme, en fait, ça l'est pas forcément, de dire que son boulot, c'est aussi aligné avec ses aspirations. Donc il y a une vraie recherche de peut-être plus de plaisir, en fait, au quotidien et de moins de contraintes que nos parents. Pour qui, le symbole de réussite, c'était de faire carrière dans une grande boîte, d'y passer 20 ans, quoi. Et ça, je pense que c'est révolu et que le monde du travail est en train de changer. Il y a plein de nouveaux modèles qui s'inventent, que ça soit de l'entrepreneuriat, que ça soit de faire plusieurs jobs en parallèle et qui étaient qui pouvaient être vus avant comme un peu précaires. Et alors que je pense que ça devient, en fait, un modèle de se dire... Je fais plein de jobs différents, je touche à tout et quelque part le CDD c'est pas si mal sur les choses.
Ouais, j'ai l'impression que c'est, enfin, je suis hyper d'accord avec toi. J'ai l'impression que c'est, voilà, que la façon de travailler est totalement en train de changer. Enfin là, je lisais un article tout à l'heure comme quoi on changerait à peu près, notre génération changerait à peu près 12 fois de job dans notre carrière, et encore, je pense que c'est peut-être pas la réalité. Je pense que ça pourrait être plus et que voilà, enfin, il y a vraiment tout un changement. On a tous besoin de plus de sens, d'être aligné comme tu dis. Enfin maintenant, on n'a plus envie d'être dans un boulot qui n'est pas en lien avec nos valeurs, avec le fait de prendre du plaisir, avec tout ça. Mais on a quand même encore, je trouve, en tout cas, j'ai l'impression, dans les premières années de boulot, on a toujours le même réflexe d'aller dans les grandes boîtes, ouais, de faire... voilà, c'est un peu les préjugés que je vais dire, mais quand tu sors d'une école de commerce, tu vas faire du marketing, de la finance, du conseil ou de l'audit. Et c'est après, en fait, qu'on a le réveil. Je ne sais pas si on va arriver à un moment... Là, j'ai l'impression que c'est quand même de plus en plus les étudiants, ils commencent de plus en plus à se renseigner sur l'ESS, à essayer d'entreprendre, etc. Mais je ne sais pas si un jour, on va sortir d'école et direct se lancer dans un truc qui va nous faire kiffer, etc.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est vrai que moi, du coup, j'ai 33 ans et nous, toute ma génération, ça s'est passé autour de la trentaine, donc après 5 ans. Je vois, j'ai une sœur qui a 8 ans de moins que moi et sa génération, c'est déjà beaucoup plus au moment de la sortie d'études. Après, je me dis, pour que ça change complètement, il faut aussi que les écoles de commerce change, je pense, parce qu'il y a toujours ce modèle de... Et peut-être qu'après, ça sera plus symbole de réussite de faire une école de commerce ou une école d'ingé. Mais ça reste ça, en fait, la voie royale, perçue en tout cas, de tu réussis tes études, c'est que tu es diplômé d'une grande école, que ce soit de commerce, d'ingé ou quoi. Donc ouais, mais c'est ça qui est marrant en ce moment aussi.
Tout ce changement.
Ce changement, ce qui est marrant, ce qui n'est pas forcément tout le temps très confortable quand tu le vis, mais qui est aussi ce qui fait qu'il est chouette au quotidien, quoi.
Ouais, non, c'est clair, c'est pas du tout confortable. Après, il y a des personnes pour qui ça se passe très bien, mais c'est quand même des moments de stress, des moments de doute, etc. Toi, comment tu l'as vécu quand tu as décidé de pas revenir dans ta boîte? Tu es quand même rentrée en France. Comment ça s'est passé, en fait?
Ouais, je suis rentrée en France, mais tout de suite, en fait, j'ai pas eu une période. C'est pas là où est arrivée la période de doute, c'est plus tard. Parce que j'ai des copains qui ont fondé le Refugee Food Festival. Donc, il y a un festival culinaire sur l'intégration des chefs réfugiés, en fait. Pendant le temps du festival, les chefs sont invités dans les restaurants ils prennent les cuisines de restaurants parisiens, mais de partout dans le monde maintenant. Et c'est un projet que j'avais toujours adoré. Enfin, d'ailleurs, c'est un ancien collègue, donc on était avant dans la même entreprise. Et avant même de revenir, on était encore en contact. Et je lui dis, ouais, en tout cas, j'ai toujours cette logique de tester des choses et de me dire, je suis encore sur cette logique de bénévolat et de dire, si tu veux, s'il y a besoin d'aide et tout. Il me dit, non, mais au-delà de ça, nous, on va certainement avoir un petit budget, donc on a besoin de monde. Donc si ça t'intéresse, tu nous aides à organiser la prochaine édition, donc qui était la seconde édition du festival, parce qu'ils avaient lancé ça l'année d'avant, juste à Paris. Et en fait, ça allait très vite parce que c'était l'édition européenne où il y avait déjà 13 villes. Donc du coup, je dis bien sûr bingo, tu vois, je savais que je partais de mon entreprise. Donc je les ai aidés à monter cette édition européenne. Donc quelque part, j'avais à peine atterri que je repartais sur cette nouvelle aventure de quelques mois. Donc ça, c'était sur une période de freelance de 3-4 mois où en plus, moi, j'ai géré l'organisation, la coordination, parce que c'est organisé à chaque fois par des citoyens de chaque ville, mais la coordination à Madrid, donc en Espagne, à Florence, en Italie et à Lyon, donc en France. Donc du coup, je continue à voyager aussi et pas être sédentaire. Donc c'est vrai que ça s'est fait une transition en douceur. Après, j'ai fait une mission de conseil toujours sur des sujets autour de la migration, cette fois-ci au Maroc. Et c'est après, en fait, où je me suis dit, mince, ça fait 6 mois que je suis revenue. Ça fait un an que j'ai quitté mon job. Ça y est, le chômage a commencé. Il va falloir trouver ce que tu veux faire, quoi. Et là, j'étais en mode paumée. J'avais mis le doigt sur ce que je voulais pas faire. Et même au fur et à mesure des expériences du congé sabbatique, mais aussi du Refugee Food Festival et du conseil, je savais ce dont j'avais pas envie de faire. je pressentais ce dont je commençais à avoir envie, mais j'avais pas vraiment. Enfin,
le concret, t'avais pas.
Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, du coup, j'étais complètement paumée. Et je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et je savais que je voulais plus de plein de choses et que plein de choses ne me convenaient plus, mais j'avais pas encore. C'était pas 100% clair ce que je voulais faire, quoi.
Ouais. Bah, après, t'avais quand même fait plein de choses. Enfin, ouais. T'avais quand même voyagé pendant 6 mois et même pendant ces voyages, t'avais bossé pour des assos.
Ouais.
Après, t'avais fait ce que tu dis là, tes 2 missions. Donc, ouais. Quand même, t'étais pas inactive. Donc,
Non, moi, ce qui me faisait le plus peur ou de l'appréhension, etc., c'est cette logique financière, en fait, de dire, c'est vrai que c'est confortable quand t'as un CDI, tu continues à être payé, etc. C'était de se dire, en fait, le chômage, c'est une vraie chance pour lancer son projet, ce que t'as envie de faire. À l'époque, je savais pas que je voulais lancer une boîte. En tout cas, je savais pas que je voulais lancer celle-ci. C'est long à la fois, parce que c'est génial d'avoir 2 ans, mais sur un temps de développement, d'activité, business, etc., ça reste très court, quoi. Et je me suis dit, bon, cocotte, va falloir que tu t'actives.
Ouais.
Et c'est là où. C'est vrai que tu l'as un peu souligné, je pense que j'ai une tendance à pas être hyperactive, mais à aimer beaucoup faire des choses. Et j'étais dans une période où, du coup, je savais plus ce que je voulais faire.
Ouais.
Donc là, grosse période de doute.
C'est hyper compliqué de savoir ce qu'on fait, enfin ce qu'on veut faire. On sait ce qu'on veut plus faire, donc être dans un CDI, dans une grande boîte, avec pour bosser pour des associés, on veut être plus libre, etc. Mais on a tellement aussi de possibilités devant nous. Comme tu disais, tu peux être freelance, tu peux monter ta boîte, tu peux, en plus tu peux aller bosser dans n'importe quel pays. Ouais. Enfin, toi, t'avais vachement envie de voyager et tout, donc t'as 1000 solutions. Et du coup, je trouve ça marrant parce que on a encore vachement, c'est normal, la pression de pas savoir, la pression de se dire mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Alors qu'on sait que potentiellement on va changer de boulot 12 fois. Je dirais pas qu'il y a pas trop de difficultés à trouver un emploi, mais je veux dire, quand t'es sorti d'une école de commerce, tu peux quand même faire des choses, etc. Donc cette pression financière, elle est un peu moindre, je trouve. Mais c'est juste que en fait je pense que maintenant on veut faire un truc qui est en lien avec nos valeurs, et on veut absolument pas retourner dans un truc lambda qui va nous saouler, quoi.
C'est exactement ça, et c'est un peu ce paradoxe aussi de se dire je veux être indépendante, je veux pas être mais quelque part d'avoir cette pression sociale et financière en fait. Ouais. Sur d'avoir un job, de se dire mais en fait il faut vite que je puisse gagner de l'argent, et je pense que c'est le pire truc à faire.
Ouais,
parce que c'est pas comme ça, enfin c'est pas en allant forcer parce que ça se fait. Et en parallèle, t'as quelque chose qui est assez inconfortable. Au départ, c'est pas méchant de la part de ton entourage, et c'est plutôt bienveillant, mais c'est de se dire alors tu fais quoi? Alors t'en es où? Alors t'as trouvé? Et en fait, au tout début, quand tu te dis ouais, c'est cool, je fais des missions, j'ai machin, mais au bout de 6 mois, c'est bon, alors t'en es où? T'as trouvé et tout? C'est cool, machin? Non, toujours pas. T'as aussi ça. Et à côté de ça, les mêmes qui te posaient les questions, c'est ceux qui disent j'aurais jamais osé faire ce que t'as fait. Tu sens que c'est des choses que beaucoup de gens auraient aimé faire.
C'est vrai qu'il y a plein de gens qui prennent pas le courage de le faire.
Ouais.
Et aussi en parallèle, c'est ce que tu disais, c'est que les gens ne se rendent pas forcément compte de comment se passe une reconversion. Parce que moi, dans tous mes invités ou même dans les gens que je rencontre autour de moi, et même moi qui suis en reconversion, en fait, tu te rends compte que si t'avais pas une idée un petit peu toute faite de quand t'es partie de ton boulot, t'es complètement perdu en fait quand tu sors, parce que t'as 1000 possibilités, et savoir clairement pourquoi t'es fait, t'as pas envie de te tromper, etc. Donc ça prend énormément de temps. Et toi, du coup, ce que tu dis, c'est que au bout de 6 mois, enfin quand t'es revenu au bout de 6 mois après tes missions, t'avais pas encore trop d'idées de ce que tu voulais faire. Comment t'as réussi à te mettre un peu sur la voie de Kera?
Alors le déclencheur, parce que du coup je pense qu'en fait ce processus enclenché depuis un an, c'est-à-dire les 6 mois de congé sabbatique, puis les 6 mois de freelance, ça m'avait quand même permis, sans le savoir, de beaucoup avancer la réflexion, mais il me manquait le déclencheur, ou comme je le dis, assembler toutes les pièces du puzzle, quoi.
Mm-hmm.
Et en fait, j'ai suivi un bilan de compétences qui s'appelle Switch Collective, qui est un bilan de compétences un peu nouvelle génération, typiquement pour tous ceux qui se retrouvent plus dans leur job, mais qui ne savent pas par où commencer. Et c'était un copain de copain, ce que j'avais fait du coup pendant l'été, on s'était fait des vacances entre potes, et un copain de copain avait fait ça, et il me dit, mais pourquoi est-ce que tu ferais pas ça? Je fais, ah ouais, tiens, pourquoi pas? Et c'est ce programme, en fait, qui m'a permis de comprendre vraiment, mettre au clair quelles étaient mes envies, quelles étaient mes compétences, quelles étaient mes appétences, comment je voulais faire, qu'est-ce que je voulais faire, dans quel environnement. Et en fait, à la fin du programme, je me suis dit, il y a une chose, j'ai envie de retourner au Burkina, qui était un pays que j'avais adoré. Quand j'y étais, j'avais été vachement marquée par l'artisanat. À l'époque, je m'étais dit, peut-être que je peux faire de l'import-export, de trucs et tout. J'avais pas poussé, parce que c'était pas forcément ça que j'avais envie de faire. Et je me suis dit, je vais faire un projet de valorisation de l'artisanat, donc d'aller plus loin et de se dire comment est-ce que tu mets en avant des artisans, tu mets en avant des savoir-faire. Donc d'avoir un aspect beaucoup plus créatif, parce que ce programme m'a fait aussi prendre conscience que j'avais un vrai aspect, un vrai besoin créatif que j'avais peut-être oublié, en fait. ou que j'exprimais différemment dans ma carrière, etc. D'avoir besoin d'humains, d'échanges, de découvertes, de voyages. Et donc, du coup, tout ça, ça s'est...
Ça s'est rassemblé, du coup.
Ça s'est rassemblé. Et au tout début, c'était, je vais monter une marque de bijoux artisanaux. Et donc là, du coup, ça a complètement évolué parce que la marque de bijoux, c'est une marque. D'une marque de bijoux, ça a été une marque d'artisanat au sens large. Je veux dire, comment tu valorises les savoir-faire. Et donc, en fait, tu l'exprimes sur différents types d'objets, de projets, etc. Et au-delà d'une marque, c'est de se dire que c'est un vrai projet de promotion et de valorisation où c'est pas qu'une partie commerciale, mais c'est comment est-ce que tu peux accompagner tout au long de la chaîne les artisans, contribuer en fait à l'émergence d'une nouvelle génération d'artisans, de la préservation de savoir-faire qui disparaissent, etc. Quoi. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'était ça. Et en fait, c'est une des choses, je pense, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, quand on est en reconversion ou quand on tâtonne, il n'y a rien de mieux que de faire. Et c'est ce qui fout le plus la trouille au départ, d'aller rencontrer des gens, d'aller pousser des portes, d'aller... Quand tu commences, t'es tout sauf sûr de toi, t'es complètement paumé, t'as juste une once d'idée de ce que t'as envie de faire et ça te fout la trouille d'aller voir quelqu'un qui a l'air hyper sûr, hyper avancé dans ce qu'il veut et tout. Alors que c'est comme ça que t'avances et c'est en testant. Enfin, moi, je suis une vraie adepte du test and learn et ça reste pas facile parfois parce que t'as les vieux trucs qui ressortent et il y a des trucs, en fait, dès que ça t'expose trop, tu dis ouais, peut-être pas, machin. Alors que je sais très bien que c'est en faisant que ça va te permettre, en fait, d'aller dans la bonne direction, c'est de prendre des mauvais chemins, de te planter, de rencontrer des gens, de t'ouvrir des portes, etc.
C'est clair. Et non, mais du coup, tu conseilles aux gens qui, justement, sont en reconversion, ils ont une petite idée, mais ils ne savent pas trop, de faire ce genre de bilan de compétences.
Moi, ça m'a beaucoup apporté. Pour moi, je dirais oui. Après, je pense qu'il ne faut pas en attendre tout de suite, parce qu'on est beaucoup par promo. Enfin, c'est beaucoup. On est 40, en fait, par, si c'est toujours le cas. Donc, c'est hyper bien, parce qu'il y a une vraie émulation collective. Mais du coup, aussi, tu as des profils très, très différents. Et moi, j'étais quand même très avancée dans ma reconversion. Il y en a, ils étaient encore en poste. Donc, du coup, moi, tout le monde dit, mais tu es allée hyper vite et tout. Comment tu as fait? C'est frustrant pour nous. Je fais non, parce qu'en fait, j'avais quitté mon job, j'avais détesté, j'avais déjà fait autre chose. Et encore là, ça évolue. Enfin, tu vois, après un an plus tard, je suis en train de me dire que je veux aussi faire autre chose. Enfin, c'est un autre... que le modèle d'il y a un an va un peu changer, etc. Quoi. Donc ouais, je pense que c'est hyper bien. Après, selon là où tu en es dans ta reconversion, ça prendra plus ou moins de temps, mais c'est des choses... En tout cas, je pense que dans une période de reconversion, et c'est ce qui est pas mal prôné par Switch, donc après, il y a peut-être d'autres méthodes, d'autres choses, mais c'est cette logique d'introspection, mais pas toi seul avec toi, mais avec des autres, et comment t'es en miroir, etc. Et cette logique d'action aussi. Donc je me reconnecte à moi, je comprends enfin au plus profond qui je suis. Quand j'étais gamin, qu'est-ce que j'avais envie de faire, qu'est-ce que j'aimais bien faire, etc. Et puis après, de se dire, en fait, je vais prendre des rendez-vous avec des gens que je trouve inspirants, qui m'intéressent. Ouais, je vais écouter des trucs, enfin, tu vois, des podcasts qui ont un super... moi, je trouve qu'il y a un vrai, encore au quotidien, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts aussi pour m'inspirer, que ce soit sur des parcours entrepreneuriaux ou là-dessus. Enfin, t'as des choses comme ça, de rencontrer et puis après de tester, quoi, de parler de ton idée. Et en fait, depuis un an, un des enseignements, c'est en fait, plus tu parles de ton idée, plus il y a des choses qui débouchent, quoi. Alors que, vu que c'est très intime au départ, c'est très compliqué parce que t'as l'impression que si on te dit le moins de trucs négatifs, c'est toi qui vas être jugé. Ouais. Et, alors que pas du tout, mais.
Non, mais c'est sûr que c'est hyper important d'en parler. Et c'est vrai que souvent, les personnes qui ont une idée, ils se disent, j'ai pas très envie d'en parler parce que si on me vole l'idée, etc. Donc il y a un peu cet a priori là. Et c'est vrai que quand on te dit des choses négatives, alors que toi, voilà, forcément ça te tient à cœur, ça peut être compliqué à encaisser, mais en même temps, c'est ça aussi qui fait grandir le projet. Et potentiellement, oui, il plaira pas à tout le monde de toute façon. Mais après, c'est bien de prendre en compte ces remarques parce que de toute façon, elles peuvent être que bénéfiques pour la suite.
Bon, après, c'est pas toi qui es jugé, c'est un projet. Les gens, souvent, ils font ça avec. Et puis moi, j'ai eu très peu de. Enfin, j'en ai même pas eu dans mes souvenirs de jugements négatifs. Après, c'est des remarques que toi, tu peux prendre plus ou moins personnellement, mais c'est toujours fait avec beaucoup de bienveillance, en fait, parce que quelque part, c'est ce qu'on disait, même si beaucoup veulent changer de vie, etc., il n'y a pas encore beaucoup de gens qui sont dans ce... même si de plus en plus, mais dans ce processus de reconversion, donc les gens sont très bienveillants avec les gens qui osent aller... Et donc, du coup, d'échanger là-dessus, enfin, moi, je trouve que c'est hyper bénéfique. Et pour revenir sur l'idée et d'avoir peur de qu'on pique l'idée, etc., ouais, je pense que c'est une crainte qu'on peut tous avoir, mais quelque part, je pense que c'est la dernière des choses à avoir parce que c'est pas tant l'idée qui a fait le truc, c'est aussi qui la porte, comment tu le portes. Et une bonne idée, t'es pas le seul à l'avoir. Quoi.
Ouais,
donc, et quelque part, si t'as des concurrents, c'est pas plus mal non plus. Quoi, parce que c'est vrai que t'as un marché et que ça se développe, etc. Donc, ouais, pour moi, il faut pas avoir peur
d'en parler
non, et d'agir, de faire, de rencontrer, de se prendre des murs, de rebondir. Alors, c'est pas facile au quotidien. On a l'impression que je vis hyper bien tout le temps, mais non. Mais c'est comme ça aussi que tu grandis, t'avances et voilà.
Ouais, parce que toi, du coup, en sortant de ce bilan de compétences et de tes voyages, etc., ce que tu avais envie de faire, c'était de, bah, ce que tu disais, hein, valoriser l'artisanat local, potentiellement au début du Burkina Faso, et valoriser voilà, les savoir-faire, que ça reste aussi dans la culture, etc. Et du coup, c'était quoi les premières étapes? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tu dis que tu étais à l'action, etc.
Ouais.
Toi, ça a été quoi les premières étapes?
Alors, suite au programme, j'ai rencontré plusieurs personnes en lien, enfin, tu vois, soit avec le projet que j'avais, donc soit avec le Burkina, soit avec l'artisanat, etc. Il y a une personne qui m'a dit notamment, si tu viens me voir, en fait, c'est que tu as envie de retourner au Burkina, donc vas-y, quoi. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait un peu comme moi, qui fait ça au Burkina, et qui fait partie du réseau, qui est une amie d'amis? Et elle me dit, vas-y. Je pense que c'était vraiment mon driver principal d'avoir envie de retourner au Burkina. Et donc, du coup, j'ai pris un billet d'avion pour 3 semaines au Burkina. Sur le coup, quand je l'ai pris, je me suis dit, j'en parle pas tout de suite à tout le monde, j'en parle que quand c'est pris, parce que sinon, tous les proches vont avoir peur de toi, enfin, peur pour toi plutôt. Mais c'est le lapsus. Mais c'est parce que forcément, quand t'es proche, quand t'es en période de reconversion, ils ont qu'une envie, c'est que tu retrouves quelque chose, mais quelque chose quelque part avec une sécurité. Donc, il faut savoir aussi manager l'information. Et je me suis dit, quand je l'ai pris, j'étais pas hyper sereine non plus, le billet. Je me suis dit, c'est quand même une étape dans le truc, ça concrétise. Et donc, du coup, j'ai pris le billet. J'en ai parlé après à ma famille en disant, au fait, je prends un billet. Et donc, du coup, je suis partie 3 semaines à Ouaga. Donc, c'était il y a quasiment 2 ans, c'était en février 2018. L'objectif, c'était de rencontrer des artisans, de voir si l'idée était ne serait-ce qu'envisageable. Et voilà, donc pendant 3 semaines, j'ai rencontré des artisans par du bouche à oreille. J'ai commencé à tester des choses. On a fait des premiers prototypes, alors qui n'ont rien à voir avec maintenant ce que je fais. Mais en fait, ça a permis de ramener des choses en France, de montrer ça aux copains, de faire des mini-ventes. Donc, de me rassurer, moi, sur me dire que ça plaisait plutôt pas mal. Ouais, c'est cool. Même si, ton cercle premier reste toujours très bienveillant. Oui, maintenant, avec du recul, je me dis, c'est jamais les trucs que je proposerais à la vente. Mais ouais, ça te permet vachement de te rassurer. Et c'est pour ça que je dis tester. Aller très vite sur le marché, etc. Et donc, du coup, je suis rentrée fin février et début avril, je repartais au Burkina pour 2 mois, où là, je développais vraiment les premiers produits, la marque avec les artisans, de se dire c'est quoi le concept, qu'est-ce que je veux. Et c'est vrai de repartir vraiment de l'artisan, de qui il est, de son pays, de sa culture. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que je trouve que l'artisanat, ça peut être aussi un métier qui est entre plusieurs eaux, qui est entre l'artistique, entre le culturel, entre le business, mais qui n'est pas forcément 100% reconnu. Donc c'était comment, comme à la manière de designer, on met en avant les artisans aussi et on repart de qui ils sont. Donc en inspirant, et les designs, ça vient soit d'eux, soit de moi, mais c'est toujours inspiré d'un élément, soit qu'ils m'ont dit, soit de leur culture, soit de choses comme ça. Donc voilà, et ce que j'aime bien faire aussi, c'est des collabs entre designers et artisans qui n'ont pas forcément la même culture, et de se dire comment au travers de cultures, en fait, tu réinventes des codes et tu t'enrichis mutuellement, quoi.
Et du coup, cet artisanat, il est valorisé au Burkina Faso, ou pareil, il y a aussi un travail là-bas à faire de valorisation de ces métiers-là?
Il y a un vrai travail, et je pense que c'est ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois. En fait, c'est un pays où l'artisanat a toujours été très fort, mais qui au final, il est connu sans être connu, parce que c'est quand même une référence sur le continent africain. Il y a la foire internationale de l'artisanat qui se passe au Burkina, enfin, plein de choses, mais quelque part, les Burkinabés ne connaissent pas tous forcément les traditions. Et surtout, le modèle de réussite, c'est de pouvoir consommer des trucs industrialisés comme en Europe, comme en Europe, quoi. Et comme nous, on y revient un peu, je trouve, sur les trucs industrialisés, mais quand même, alors qu'il y a des vrais fleurons et des vraies choses à faire. Et donc, comment est-ce que tu contribues à ça, et de montrer, parce que, et je compare souvent à ce qui s'est passé en France il y a plusieurs années, de se dire que l'artisanat est démodé, plus personne veut faire ça, c'est un métier du passé, et c'est une façon de consommer du passé. C'est pas vrai, quoi. Enfin, aujourd'hui en France, tu vois des super trucs qui se font en artisanat, et en fait, il suffit juste de un peu repenser les codes, de dépoussiérer ça, et voilà, quoi. Enfin, donc ça c'est sur la partie de la demande. Donc, comment tu développes la demande en ayant une offre qui est peut-être un peu plus contemporaine? Et sur la partie offre, on va dire, ou plutôt vocation, parce que c'est aussi des métiers qui se perdent, parce que c'est considéré comme étant très dur, tu gagnes pas beaucoup d'argent, et encore plus en ce moment, par exemple au Burkina, où c'est un pays où la situation sécuritaire se tend de plus en plus, donc il y a de moins en moins de tourisme. Tu fais en sorte de créer aussi un peu des role models ou des success stories parmi les artisans, en fait, pour donner envie à des plus jeunes de s'engager, de se dire, en fait, c'est pas...
Ouais, c'est tout aussi valorisant que d'aller bosser dans d'autres industries.
Ouais, donc c'est un truc que j'ai en tête depuis un petit moment. Toujours quand tu es dans ces logiques financières, de pouvoir en vivre, c'est pas forcément tes premières priorités, mais Voilà, mais c'est ce que je te disais. Là, en parallèle, j'ai repris. Je fais des activités de compte parce que j'en faisais pas avant. Je fais des missions de conseil, etc., et qui permettent d'avoir un socle financier. Et donc, du coup, qui permet aussi de développer sur la partie de Kera des choses.
Oui, parce qu'aujourd'hui.
Des choses de promotion, etc., où c'est moins générateur de revenus, mais où quelque part, c'est pas forcément très grave.
Ouais, parce qu'à côté.
Par rapport à moi, est-ce que je peux en vivre ? Je peux vivre d'autres choses à côté,
ouais.
Quoi.
Ouais, parce qu'aujourd'hui, Kera, t'en vis pas, quoi. C'est ça que tu dis.
Non, j'en vis pas encore. Ouais. Parce que c'est très long. Enfin, on a tous en tête des 2-3 success stories d'entrepreneurs qui gagnent très vite leur vie, mais en fait, je pense que ça existe peu. Que même les success stories qu'on entend avec les levées de fonds, etc., ça veut dire qu'en fait, la boîte est toujours pas viable, quoi. C'est juste que tu vends une vision et une projection de développement. Mais c'est vrai que ça, c'est pas encore le cas. Et moi, sur la partie levée de fonds, c'est quelque chose, je pense que j'ai pas forcément l'activité adaptée à de la levée de fonds. Mm-hmm. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Toujours dans cette logique de liberté, parce qu'en fait, la levée de fonds, c'est aussi d'avoir des gens dans le capital avec soi, donc des décisionnaires. Et j'ai envie de garder cette liberté, donc ça prendra peut-être plus de temps. Mais derrière, c'est pour ça que je développe d'autres activités. Et c'est une partie c'est une façon de pouvoir continuer à développer Kera, de le développer comme je veux, avec ce qui me plaît, ce qui me semble être bon aussi, en général, sans être dans cette logique un peu pas effrénée, mais en tout cas, cette pression financière de devoir faire du chiffre d'affaires et gagner de l'argent très vite, quoi.
Ouais, non, c'est clair. En gros, pour que ça dure, Kera, c'est sûr que. Et que ce soit en lien avec tes valeurs, ouais. Et tes envies de liberté, faut pas non plus que que tu fasses n'importe quoi. Exactement. Que tu fasses rentrer n'importe qui. Et donc aujourd'hui, tu es toute seule dans l'aventure et tu travailles avec les artisans. Donc pour l'instant, c'est que le Burkina Faso, c'est ça ?
Burkina, et j'ai commencé un peu avec le Maroc.
D'accord.
Donc, on a fait cet été une super collaboration, je trouve, avec 4 femmes tisserandes de tapis dans l'Atlas, où on était au fin fond d'un village, 15 km de piste de la route, et où en fait, du coup, il y a une designer française qui est venue. On a passé 20 jours à vivre avec ces femmes-là et à replacer en fait la tradition du tapis berbère. Normalement, c'est la femme qui raconte son histoire au travers du tapis qu'elle tisse. Mmh. Et c'est un peu son livre. Elle fait ça à côté de tout ce qu'elle fait de la maison, etc. Et le tapis berbère, c'est devenu une vraie mode. L'artisanat au Maroc, c'est un truc qui est hyper développé, etc. Donc, c'est des choses qui ont pu se perdre. Donc, la femme, elle est plus vraiment là-dedans. Elle devient beaucoup plus mercantile. Elle ne gagne pas beaucoup d'argent là-dessus. Donc, on a voulu repenser ça et de se dire comment est-ce qu'on repart de cette tradition en s'inspirant de choses qui font partie de la vie quotidienne de ces femmes. Donc, en fait, tout le design est inspiré. C'est Alexia Venot qui a fait le design et elle a fait tout un atelier de création avec ces femmes-là, de se dire des objets qui vous inspirent, qui racontent votre vie, etc. Et donc, du coup, pour l'instant, tout ça pour dire que, ouais, il y a Burkina, le Maroc, j'aimerais bien aller en Afrique de l'Est aussi.
Ouais, en gros, le but, c'est vraiment de valoriser l'artisanat local de ces pays-là, plutôt l'Afrique, du coup.
Bah, pour l'instant, oui. Après, on verra. Mais c'est de se dire. En fait, c'est pour ça que c'est un projet artistique, culturel, commercial. Enfin, c'est vraiment entre plusieurs choses. Parce que c'est comment aussi tu fais de l'artisanat un moyen d'expression d'une culture. Donc, comment tu racontes une culture et tu racontes une certaine vision du monde au travers de l'artisanat et de ses artisans, et notamment en tout cas pour le cas du continent africain, et que je connais mal parce qu'au final je connais très bien l'Afrique de l'eau, enfin trop très bien, non pas du tout, je connais une partie de l'Afrique de l'Ouest, mais ça serait beaucoup trop prétentieux de dire que je connais très bien l'Afrique de l'Ouest, je connais le Maroc, mais on a tendance à parler de l'Afrique comme un tout, et moi ça me gonfle au plus haut point, parce que il y a des cultures hyper différentes, et c'est pour ça que j'ai volontairement envie de tirer le trait, de se dire je vais faire un pays en Afrique de l'Ouest, un pays en Afrique du Nord, un pays en Afrique de l'Est, qui je pense est une culture complètement différente, qui sont des pays où il y a plein de choses qui se passent d'un point de vue design, couture, des choses comme ça. Personnellement, j'ai très envie d'y aller, de découvrir aussi ça. Donc pour l'instant, c'est plutôt en Afrique. Après, la vision, c'est aussi dans le monde entier, quoi. Et ça dépendra aussi de là où je me sens bien et de là où j'ai envie d'aller. Ouais. C'est là où, du coup, qu'on en revient à ce qu'on disait un peu en début d'épisode, de se dire comment t'alignes aussi tes envies perso avec tes envies pro. Et pour l'instant, c'est là où je me sens bien aussi. C'est là où j'ai envie de développer l'activité. Mais c'est vrai que quand j'ai lancé il y a 2 ans, au tout début, j'ai même pas lancé en fait, quelqu'un m'avait dit ça serait quoi ton rêve dans 10 ans, et je crois que j'avais dû répondre d'avoir permis des milliers de collaborations entre artistes, artisans, designers du monde entier, quoi, qui se seraient jamais rencontrés et qui se sont rencontrés à travers de l'artisanat.
Oui, parce que potentiellement on
peut mixer aussi
les savoir-faire.
Ouais, exactement, et c'est de se dire comment est-ce que tu réinventes des codes entre 2 artisans qui ont le même métier mais dans des pays différents où il n'y a pas du tout la même chose, entre un designer et un artisan. Enfin, et donc c'est un peu l'envie que j'ai pour Kera, du coup, qui est moins immédiat d'un point de vue financement parce que c'est des projets beaucoup plus culturels et d'exposition et de choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, c'est vraiment ça qui me plaît, et voilà, donc d'avoir un socle financier à côté sur d'autres activités. Ouais, c'est une façon aussi de permettre de faire sûr. Et donc d'avoir plusieurs jobs au quotidien, quoi.
Enfin, ouais, et puis en plus, tu fais quand même des choses que t'aimes. Enfin, je veux dire, tu ben voilà, tu fais pas des choses que t'aimes pas juste pour gagner de l'argent. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que
ouais,
tu
alors
fais
en parallèle, je fais un peu de conseil. Je fais des activités de conseil sur tout ce qui est coopération, sujet de coopération et de développement. Donc là, j'ai fait des missions de conseil sur des sujets autour de la culture et de l'éducation au Burkina. Donc on reste quand même dans ce milieu-là.
Oui.
Sur des sujets autour de la migration aussi. Donc j'avais beaucoup bossé sur le Refugee Food Festival. Donc c'est des sujets qui me tiennent à cœur aussi, qui me permettent de rencontrer aussi d'autres acteurs. Et en fait, c'est aussi là où ça peut être complémentaire pour Kera, parce que sur ces missions-là, tu es très vite en contact avec des gens de ministères ou de choses comme ça. Donc ça me permet aussi de rencontrer au Burkina les décisionnaires, on va dire, gouvernementaux ou d'organismes, etc. Qui, alors aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, il n'y a pas de pont direct, mais je suis persuadée que ça va permettre aussi d'alimenter des choses pour Kera derrière. Donc du coup, c'est hyper complémentaire.
Ouais, ouais, puis ça te permet aussi d'en vivre et de pouvoir faire grandir Kera, parce que potentiellement, si tu ne gagnes pas d'argent tout de suite, au bout d'un moment, il aurait fallu quitter l'aventure et ça aurait été super dommage.
Mais dans tous les cas, je savais que ça allait être compliqué de pouvoir gagner ma vie en si peu de temps. Mais je m'étais toujours dit que je ne lâcherais pas et que quitte à prendre un deuxième job, je ferais ça. Et en fait, là, c'est que je développe une seconde activité qui me plaît. Et donc voilà. Quoi.
Bah ouais, non, c'est super. Et du coup, là, ça fait bientôt 2 ans que tu as commencé à bosser sur Kera. C'est quoi un peu ton retour d'expérience du coup ? C'est quoi les bons côtés ? C'est quoi les moins bons côtés ? Comment ça se passe aujourd'hui ?
Voilà, y a beaucoup plus de bons côtés que de mauvais côtés, même s'il y a aussi des moments où plein de doutes et où c'est très compliqué, etc. Mais si je prends du recul depuis 2 ans, c'est de me dire que, et c'est un peu ce que j'évoquais, mais c'est d'être hyper aligné avec dans mes envies, de ce qui me plaît, d'avoir créé un projet qui est vraiment en lien avec mes valeurs, mes envies, donc qui est autour de l'échange, rencontre de nouvelles cultures, partage, valorisation de savoir-faire, de la création. Enfin, vraiment toutes ces choses-là, de pouvoir voyager, de pouvoir rencontrer des gens inspirants, etc. Ouais, donc c'est d'avoir monté un projet qui réconcilie vie pro, vie perso, on va dire. Ouais, après ça résume bien le truc, sur ça, de dire, en fait, je pense que je serais jamais partie de Paris sans ça, alors que Paris me convenait plus du tout depuis des années, et là j'ai pas tout à fait quitté Paris, mais j'ai quasiment quitté Paris, on va dire, parce qu'à fur et à mesure d'aller tout le temps au Burkina depuis quasiment 2 ans, j'ai pris une maison et j'y suis maintenant la majorité du temps. Mais je pense que j'aurais pas sauté le pas comme ça de partir sans ça, et en fait, je pense que cette reconversion, c'est une reconversion d'environnement, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais d'un environnement parisien qui me convenait plus du tout, et maintenant... Mais je l'avais pas réalisé à l'époque, en fait, que c'était une grosse partie du mal-être, même dans mon ancien job. Et de se dire, voilà, d'avoir trouvé un univers, un mode de vie qui me convient aussi, quoi. Enfin, et de faire toujours des nouvelles choses, de rencontrer des personnes inspirantes, que ce soit directement les artisans, les designers avec qui je travaille, mais aussi d'autres entrepreneurs qui sont dans le même
type de choses que moi.
Et après, truc plus compliqué, je suis seule dans l'aventure, donc c'est ce qui est à la fois génial, parce que je construis le jeu comme je veux. Mais ce qui peut être compliqué parfois, parce que c'est ça qui est marrant, parce que j'ai toujours tiré mon énergie du collectif. Donc j'ai construit un projet collectif au final, parce qu'il y a artisans, designers, il y a plein de gens qui gravitent autour. Mais au final, dans les décisions, je reste seule. Et parfois, j'aimerais bien aussi avoir plus... d'avoir quelqu'un qui est vraiment dans le projet, avec qui discuter des orientations et te dire « Ouais, on n'y va pas », de redonner de l'énergie quand t'es un peu down d'un point de vue énergie, parce que c'est beaucoup d'énergie au quotidien. Et donc, du coup, pour développer un projet, il faut vraiment être... c'est pas perspicace, mais persévérant. Peut-être perspicace aussi, mais c'était plutôt persévérant. Il faut vraiment être persévérant, il ne faut jamais rien lâcher. Et forcément, tu as des moments de doute, forcément, tu as des moments de fatigue, forcément.
Donc, ce serait bien d'avoir une deuxième personne pour que...
Ouais, mais ça veut dire que c'est plutôt un associé, parce que dans tous les cas, sinon... Mais voilà, après, tu trouves d'autres façons de le faire et de te rebooster aussi là-dessus.
Ouais, c'est vrai que mes invités aussi qui ont monté des boîtes, ils parlent aussi pas mal de le fait d'être associé, que c'est plutôt une bonne idée quand on est sur la même longueur d'onde, forcément, mais que ça permet justement les hauts et les bas de les gérer un peu mieux, de répartir aussi le travail forcément, et de pouvoir, confronter ses idées, confronter ses envies, confronter sa vision, et que seul, ça peut être un peu plus compliqué. Je suis sûre que...
Ouais, c'est ça. Enfin, après, c'est
de mon côté, quoi.
Bah, en fait, au tout début, j'aurais bien aimé m'associer, mais j'ai pas trouvé la bonne personne. Ouais. De toute façon, j'avais envie de faire ça, donc j'y suis allée. Et maintenant, je suis plus sûre d'avoir envie de m'associer, en fait.
Ouais, bah.
Tu vois, parce que j'ai monté ça toute seule, que je suis très bien à me dire, je fais comme j'ai ma liberté d'action, etc. Donc voilà. Et peut-être la dernière chose d'un point de vue bilan, c'est de se dire, et on en revient là de comment on se retrouve aussi, pendant le congé sabbatique, je me suis retrouvée. Et l'entrepreneuriat, c'est peut-être aussi faire attention à ne pas te perdre non plus. C'est ce risque de plus penser à toi ou moins penser à toi, en tout cas, parce que tu as tellement un projet qui est aligné avec ce que tu as envie ou tu es passionné, que parfois, en fait, tu pousses les limites de ton corps et des choses comme ça. Et là, je me dis, et c'est vrai que cet été, je me suis dit, en fait, je suis vraiment cramée physiquement, quoi. J'avais pas l'impression, et au final, ça faisait un an et demi que j'avais pas pris de vacances, mais vu que je voyageais tout le temps.
Tu t'en rendais pas forcément compte.
Je m'en rendais pas compte, parce que mentalement, en fait, j'étais pas fatiguée. Mais au bout d'un moment, le corps a dit stop, quoi. En fait, il faut que tu te reposes. Et c'est vrai que t'as cette adrénaline de je monte mon projet, je m'éclate, etc. Mais de pas non plus trop oublier ça. Donc, c'est des choses que j'essaye de faire, enfin, auxquelles j'essaye de faire un peu plus attention là maintenant. Mais ça reste pas facile parce qu'en fait, t'es passionnée. Donc, tu continues.
T'as envie de faire ça 24 heures sur 24.
Et tu travailles à ton rythme. Donc, en fait, s'il y a des jours où tu travailles un peu moins, tu vas aller bosser le week-end. Tu t'en fous.
Non, c'est sûr
mais
que
c'est vrai que c'est de pas retomber. Parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est une liberté, mais c'est aussi beaucoup de boulot,
d'obligations,
ouais,
même si c'est envers toi-même.
Ouais, exactement. C'est... Donc, c'est non pas non plus. C'est de garder aussi cette certaine hygiène de vie, équilibre de vie.
Attention à pas.
Parce que si tu fais ça, c'est aussi exploser, pour. Surtout dans nos cas où c'est plutôt des reconversions, c'est parce qu'on avait une vie qui ne nous convenait plus et qu'on était, on avait tout donné au boulot. Donc, c'est pour pas
se retrouver dans la même situation. Alors qu'en plus, c'est un truc qui te plaît, donc ce serait dommage de tout gâcher. Bon, après, si un jour tu travailles trop et que tu as besoin de te reposer un mois, parce que voilà, après, tu peux réajuster et reprendre le projet. Mais je veux dire, oui, c'est sûr qu'il faut faire attention aussi.
Tu te sens vachement coupable quand tu t'arrêtes de travailler un peu et tu te dis « merde ». J'aurais quand même pu avancer. T'as vraiment du mal à prendre des vacances. Ouais. Alors que tu te dis, en fait, c'est pas grave. Quoi. Ouais, si t'avances pas pendant 3 semaines,
surtout que c'est un peu primordial.
Mais c'est très.
Quand c'est ton bébé, quand c'est ta boîte, t'as envie que ça avance, t'as envie que ça bouge. En plus, toi, tu travailles quand même avec des artisans, etc. T'as aussi envie que ça leur revienne aussi d'un côté. Il y a pas mal de choses. Et pour revenir sur. Je vais pas te demander si tu conseilles l'Afrique, parce que forcément, ça veut rien dire. Mais est-ce que tu conseillerais le Burkina Faso?
C'est un pays qui est absolument, moi que j'adore. En ce moment, c'est un pays qui est compliqué d'un point de vue sécurité. Donc,
ouais, c'est ce que tu disais.
On peut moins se déplacer, à part Ouaga, et dans les grandes villes, c'est plus compliqué de visiter. Mais c'est un pays qui est absolument, moi qui m'a marqué par peut-être la chaleur, à plein de sens du terme, c'est-à-dire la chaleur des paysages, où c'est des terres ocre, avec le ciel bleu, quelques touches de vert, la chaleur des habitants, ça peut faire un peu cheesy de dire ça comme ça, mais c'est vrai, où tu as un vrai accueil, où tu te sens tout de suite hyper bien. Après, bien sûr, il y a la chaleur aussi du quotidien. Ouais. Il fait jamais froid. Là, j'en reviens, je croyais qu'il faisait froid, mais bon, il faisait 17 degrés la nuit et 35 la journée. Donc, alors que c'est la saison fraîche. Mais c'est un pays qui est par rapport à ça, qui est génial. Et j'espère que ça ne va pas trop impacter la situation sécuritaire, où il y a une scène artistique et culturelle qui était bouillonnante, qui l'est encore un peu, qui l'est encore, mais du coup, peut-être un peu moins, où tu as beaucoup de créations autour de la musique, autour du cinéma, autour du théâtre, du conte, etc.
Donc,
et de l'artisanat aussi, où les gens de partout dans les cours des maisons, et c'est ça qui m'avait marqué quand j'y suis allée il y a 3 ans, créent de partout, quoi. C'est de la création du quotidien, comme je le définis souvent, c'est de se dire c'est pas de l'artisanat d'art ou quoi, mais c'est en fait je vais me faire mes fringues, je vais faire du beurre de karité, je vais faire la bière locale, etc. En fait, je fais de mes mains, quoi. C'est des choses qu'on avait tendance à perdre et ça fait du bien de ne pas être tout le temps devant l'ordinateur aussi.
Ouais, non, c'est clair. C'est quelque chose qu'on perd vachement, en tout cas en France, mais je pense en Europe et dans tous les pays un peu développés, on perd vachement ça. Là, c'est en train de revenir. Ouais. Justement, on en parlait tout à l'heure. On commence à retourner au fer, à vouloir faire les choses par nous-mêmes, alors que au Burkina Faso, ils l'ont encore, même si justement, il faut quand même continuer parce qu'il faut que ces savoir-faire se préservent. Mais donc, du coup, ça doit faire un vrai décalage. Il y a un vrai changement quand t'es allé là-bas et quand tu vas là-bas par rapport à quand t'es à Paris ou en France, quoi.
Ouais,
donc ça doit être assez passionnant, donc c'est plutôt cool. Merci pour tout ça. Et est-ce que j'aime bien un peu poser ces questions en fin d'échange. Est-ce que tu as des conseils à donner à des gens qui potentiellement seraient comme toi, il y a du coup 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, quand tu as pris tes 6 mois sabbatiques et qui n'osent pas forcément y aller parce qu'ils ont peur, etc. Un peu comme toi. Hein. Est-ce que tu as des conseils à leur donner à ces gens-là?
Après, moi, c'était facile aussi parce que j'étais célibataire, je n'avais pas d'enfant, donc il y a aussi d'autres choses qui peuvent rentrer dans la balance. Mais en tout cas, aux gens qui sont dans le cas-là, le congé sabbatique, c'est un risque qui est ultra maîtrisé.
Prenez-en.
C'est ça. Et l'employeur peut pas refuser. Il peut te le refuser une fois, mais tu peux pas te le refuser deux.
Mais c'est quand tu as travaillé depuis 5 ans.
Ouais. Je sais plus. Non, ouais, après, ça dépend de l'entreprise aussi, mais ça arrive avec un projet en disant que c'est un projet là-dessus. Et qu'en fait, ça permet de tester des choses. Et ça peut être un congé sabbatique pour voyager, mais aussi un congé sabbatique pour juste rester à Paris, aller tester des nouveaux trucs. Et en fait, c'est vachement bien. Dès que tu n'as pas cette notion monétaire, de dire, bah, en fait, j'ai ça comme compétence à disposition, est-ce que tu veux que je t'aide ? Tu y vas beaucoup plus facilement plutôt que de penser que tu vas passer un entretien. Et en fait, les gens disent, ah bah ouais, cool quoi. Et en fait, de proposer tes compétences de façon bénévole, c'est un super truc. Un, pour ceux à qui tu proposes parce que ça apporte des choses, et puis pour toi quoi, parce que ça te permet de tester des choses. Et moi je conseille qu'une chose, c'est de prendre soit un congé sabbatique, soit un congé sans solde, si financièrement la personne peut se le permettre. Et je pense qu'il y a toujours des solutions en économisant un peu plus, etc.
Ouais, parce que même si on a peur, là il y a quand même plein de solutions pour justement que ce soit un peu maîtrisé quoi.
Ouais,
si on est de nature peureux qu'on a peur pour l'avenir,
c'est ça, c'est que tu peux dire mais en fait tu l'anticipes 2-3 ans avant, je mets X argent de côté tous les mois. Mais ouais, après, enfin, je trouve, enfin, moi j'ai un état d'esprit où j'ai pas envie de regretter en fait d'être passé à côté d'une partie de ma vie, donc
ouais, non, c'est clair,
allons-y. Et je pense qu'on réussira toujours à rebondir tôt ou tard. Après, bon, dans quelles conditions, sur un moment donné, que ça soit inconfortable et qu'on descende un peu bas, bon, peut-être que le saut soit un peu bas, mais tu finis toujours par rebondir quoi.
Ouais,
donc,
non c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des moins bons côtés ou potentiellement se tromper, etc.
Ouais.
Mais
c'est pas grave. Parce que quand tu te trompes, t'apprends.
Ouais, bah ouais.
Non, mais... le pire, c'est de rien faire, moi, je trouve.
Ouais, ouais, non, c'est clair. Le pire, c'est de rien faire et justement de regretter après, une fois que c'est trop tard. Bon, même si c'est jamais trop tard, mais il y a un moment où on va plus avoir l'énergie ou voilà, la force de faire des choses qu'on aurait pu faire dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine. C'est hyper intéressant et puis on peut le faire, que ce soit même quelques mois, comme toi, t'avais décidé. Bon, après, ça, c'est ça.
Et puis après, il y a même des structures. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais une entreprise sociale qui s'appelle Vendredi, qui est du mécénat, où en fait, un jour par semaine, tu peux mettre tes compétences au service d'associations et de choses comme ça. Et ça, c'est dans le cadre de ton entreprise. Donc en fait, il y a même d'autres choses pour tester.
Que sauter dans le grand bain.
Ouais, voilà, exactement.
Il y a d'autres. Ouais.
Ou à côté de ton boulot. Alors c'est toujours compliqué parce qu'un boulot est prenant, mais je trouve qu'il y a toujours. Enfin, je pense qu'il y a plein de moyens que je connais certainement pas tous. Mais
Non,
t'es pas obligé, enfin, même de prendre 6 mois. Quoi.
Non, c'est sûr. Il y a plein de solutions aujourd'hui. Surtout que c'est un peu dans l'air du temps, donc il y a aussi pas mal de choses qui se développent autour de ça. Donc je pense qu'il y a pas mal de solutions. Bon, bah, donc cool. Et autre question, vu que mon podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, qu'est-ce qui, toi, t'inspire tous les jours, que ce soit pour développer Kera ou même dans ta vie de tous les jours ?
Je dirais avant tout des rencontres, des discussions, des vraies discussions. Enfin, quand j'échange avec des gens qui font soit des choses un peu comme moi, soit on discute de mon projet, soit des choses. Enfin, je trouve que t'en retires toujours vachement de choses. De parler avec les gens de qui ils sont, ce dont ils ont envie. Que ce soit avec les artisans, mais avec tout le monde au quotidien, en fait, ça te donne toujours plein d'idées. Les podcasts aussi, c'est une façon de rencontrer des gens. Moi, j'aime bien sur des podcasts d'entrepreneurs et des choses comme ça, d'écouter. C'est vrai que ça te donne toujours des idées, parce que même si c'est pas exactement
ton milieu,
etc., mais ça peut être des trucs que, ah, mais tiens, en fait, ça, je pourrais l'appliquer comme ça, mais c'est pas bête son truc. Et en fait, donc je pense que c'est avant tout les échanges et les rencontres
que tu peux faire.
Ouais.
Non, mais bah oui, c'est hyper intéressant. Bah, je suis totalement d'accord. Moi, c'est pour ça que je fais le podcast, mais je pense qu'on peut vachement apprendre les uns des autres et que je trouve, après je pense que c'est peut-être aussi très parisien de dire ça, mais que on a perdu aussi cette convivialité, bon, à part on va dire dans sa famille, dans ses amis et dans son travail. Si on reste dans ce cercle là c'est vrai qu'on rencontre pas beaucoup de monde, on n'a pas trop l'occasion de voilà, quand tu vas au resto ou quand tu sors dans la rue, etc., on se parle plus trop entre nous, que ce soit les voisins.
C'est un truc qui marque, moi, à chaque fois que je rentre, c'est l'un des dualités de Paris.
Mais c'est clair, et je pense que forcément ça doit vachement t'inspirer toi, et c'est vrai qu'on a besoin de ce lien. Enfin, on est, on est censé vivre en communauté, on est censé vivre comme ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui d'être un peu renfermé soi-même, même si ça fait du bien, parce que comme on disait, c'est hyper bien aussi de se retrouver soi-même, mais de pas perdre ces liens-là. Bon bah super, et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Kera là, pour l'année 2020 du coup ?
Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? De pouvoir monter, j'ai vraiment envie de monter un gros projet. J'ai déjà fait des collaborations du coup entre un designer et un artisan, mais d'avoir un projet plus ambitieux avec plusieurs artisans, plusieurs designers, de plusieurs potentiellement pays africains aussi, parce que c'est la saison culturelle. Enfin, c'est Afrique 2020, donc quand d'habitude c'est des pays, là c'est l'Afrique, mais bon. Mais du coup, de se dire comment est-ce que justement je peux jouer là-dessus. Et là, du coup, le fait de le dire là pendant le podcast, ça va un peu
m'obliger
à devoir le réaliser.
Ouais, c'est une
façon de... Mais du coup, ça va...
De te mettre un peu la pression.
Parfois, rien que de dire les choses, en fait, ça te... ça reste plus juste une idée. En fait, tu t'engages, quoi.
Non, bah, c'est bien. Bah,
du coup, j'ai réalisé là en le disant, mais du coup, bah, je vais être un peu.
Ok, super. Bah, je te le souhaite. Et du coup, si les auditeurs ont envie d'en savoir plus sur Kera ou sur toi, comment ils font ? C'est plutôt les réseaux sociaux ?
Ouais, les réseaux sociaux. Alors, on est sur Kera. On a un site internet www.kera.fr. Compte Insta qui est @kera.fr. Mm-hmm. Donc voilà. Et puis après, sur LinkedIn, moi, je peux répondre. Pas de soucis, quoi.
Bon bah top, bah, je mettrai tout ça en description de l'épisode et bah plein de bonnes choses et merci beaucoup pour ton temps.
Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.